ce ping-pong politique auquel j'aspire.
Rien de tel qu'une femme pour faire le ménage.
Parce que, mais oui, bien sûr,
moi, parti. Mais qui elle est, celle-là?
La gauche caviar découvre la tête de veau.
Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre.
De la poudre de perlimpinpin.
Je vous demande de vous arrêter.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le quatrième numéro de Café Noisette, l'émission de l'association des étudiants et étudiantes en sciences politiques. Vous êtes sur Radio Campus Amiens et aujourd'hui, comme le mois précédent, nous allons nous balader entre actualités nationales, patrimoine amiennois, artistes engagés, fact-checking et good news international. Nous écouterons également l'interview de Manon Robin, membre de la commission abolition de la peine de mort et de la torture au sein d'Amnesty International France. Et pour tout cela, je suis entouré par Pauline.
Bonjour.
Par Nathan.
Bonjour.
Par Justine.
Salut.
Par Thomas.
Bonjour.
Et par Lucie.
Salut.
Et pour commencer, je le disais, un peu d'actualité nationale avec Pauline. Nous vous avions proposé le portrait de Bruno Retailleau il y a peu, et dans cette logique, nous allons vous présenter les candidats à la présidentielle prochaine. Et aujourd'hui, nous vous parlons de Marine Tondelier qui, à gauche, se présente avec une ambition de rassembler.
En effet, Marine Tondelier devient ainsi l'une des premières personnalités de gauche à se lancer officiellement dans la course. Son message est clair, reconstruire une écologie capable de gouverner et à terme. Il ne devra rester qu'un seul candidat de gauche pour espérer peser face aux autres blocs politiques.
Quelles sont donc les mesures fortes de son programme?
Parmi ses premières propositions, une mesure forte, la sécurité sociale de l'alimentation, qui vise à garantir à chacun un accès à une alimentation suffisante et de qualité. Car la situation est préoccupante. Selon plusieurs études récentes, près de 42% des personnes au SMIC déclarent avoir déjà sauté des repas et 53% disent avoir réduit les quantités qu'elles consomment, soit plus d'une personne sur deux. L'objectif de cette mesure serait donc de lutter contre la précarité alimentaire en assurant un droit fondamental, bien manger pour tous.
Et récemment, Marine Tondelier a fait une annonce un peu plus intime mais en lien direct avec la présidentielle qui a retenu ton attention.
En effet, Alexandre, au-delà de ses propositions politiques, Marine Tondelier choisit aussi d'aborder un sujet personnel qu'elle veut faire entrer dans le débat politique. Le 30 mars, sur LCI, elle révèle d'être enceinte, après un parcours difficile, parlant d'un bébé miracle, un témoignage intime qu'elle transforme en message public. L'infertilité concerne aujourd'hui un couple sur cinq, mais reste encore largement absente du débat politique. Avec cette déclaration, elle veut briser le silence et faire reconnaître ce sujet comme un véritable enjeu politique.
Et comment compte-t-elle réformer la loi face à ce tabou?
Elle prévoit d'améliorer la loi en ce qui concerne la PMA. Dans son programme, elle souhaite notamment autoriser l'analyse des embryons avant implantation et renforcer la sensibilisation aux dons de gamètes. C'est vrai, c'est un timing pour le moins inédit puisqu'elle devrait accoucher en septembre en pleine campagne présidentielle. C'est une situation qui illustre aussi une réalité particulière, celle d'une candidate qui mène une double vie, entre engagement politique et vie personnelle. Elle déclare elle-même que ce sera sportif. En tout cas, c'est un défi qu'elle décide de relever. Toutefois, elle a bien précisé qu'elle ne veut pas être réduite lors de cette campagne à sa grossesse et donc à son rôle de mère, mais faire de sa campagne au présidentiel un réel engagement dans une cause qui la touche personnellement.
Eh bien, nous verrons ce que cela donne durant la campagne et si les propositions que Marine Tondelier porte prendront de l'influence dans l'opinion publique. Une autre proposition, celle de Gabriel Attal, a retenu ton attention, lui qui voulait rendre possible le travail le 1er mai.
En effet, le texte portant sur les autorisations de travail le 1er mai a été adopté par le Sénat en juillet 2025.
Alors juste avant que tu poursuives, je t'arrête. Pourquoi on célèbre le 1er mai ?
Le 1er mai est le seul jour obligatoirement férié et chômé, mais intégralement payé par l'employeur selon le Code du travail. Si quelques dérogations sont possibles pour les secteurs ne pouvant s'interrompre en raison de la nature de leur activité, la loi interdit jusqu'à présent aux employeurs de faire travailler leurs salariés. Cette date correspond à la Journée internationale des travailleurs et travailleuses. Elle commémore la manifestation réprimée dans le sang de 1886 à Chicago, puis la fusillade des manifestants de Fourmies dans le Nord, qui réclamait la journée de 8 heures de travail le 1er mai 1891. Aujourd'hui encore, le 1er mai incarne les droits des travailleurs.
Et donc, quelle était la proposition de loi?
Alors, cette proposition de loi est initiée par deux sénateurs centristes. Cette loi vise à permettre aux salariés de certains établissements et services, comme les boulangeries, les boucheries, les fleuristes et les établissements culturels, de travailler ce jour-là. Doublement payés, les salariés pourront travailler sur la base du volontariat, et le refus de travail le 1er mai ne devra pas être discriminatoire. Les débats sur cette proposition de loi ont été ouverts le vendredi 10 avril à l'Assemblée nationale et les députés macronistes eux-mêmes ont fait adopter une motion de rejet préalable pour accélérer son parcours législatif. Cependant, la commission mixte paritaire a été annulée lundi dernier. Sébastien Lecornu a annoncé reporter finalement cette proposition de loi pour les présidentielles de 2027.
Et Pauline, pour terminer, une autre proposition de loi a fait débat en ce moment et a retenu ton attention, celle de la loi Yadan.
Et oui, chers auditeurs et chères auditrices, je tenais à vous parler de cette proposition de loi qui fait débat actuellement, la loi Yadan. Rappelons-le, celle-ci, composée de 4 articles, a été déposée en novembre 2024 par la députée Caroline Yadan. Elle fait suite à l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre 2023 en Israël. Intitulée « Proposition de loi visant à lutter contre les formes renouvelées d'antisémitisme », elle a pour objectif d'adapter le code pénal français à ces nouvelles formes d'antisémitisme. Cependant, ce texte fait polémique. En effet, une pétition citoyenne a été déposée sur la plateforme de l'Assemblée nationale et appelle à voter contre la loi Yadan. Cette pétition compte à ce jour plus de 600 000 signatures.
Mais alors, Pauline, pourquoi si ce texte vise à lutter contre l'antisémitisme, eh bien celui-ci fait débat et pourquoi certains s'y opposent ?
Dans leurs propos, Caroline Yadan et les rédacteurs de ce texte déclarent que la haine anti-juive en France se nourrit aujourd'hui de la haine à l'égard de l'État d'Israël. Cependant, Alexandre, derrière cette idée se cache en réalité un amalgame volontaire entre l'antisémitisme et la critique de la politique sioniste et expansionniste menée par Israël. Le risque est donc qu'il y ait une confusion entre la critique légitime de la politique coloniale d'Israël en territoires occupés et l'antisémitisme. Ce texte assimilerait ainsi les Juifs à la politique de Benjamin Netanyahou. Il permettrait donc de criminaliser toute critique émise envers Israël. À noter par ailleurs que Caroline Yadan entretient une certaine proximité envers l'État d'Israël et refuse toute reconnaissance de l'État palestinien. Ce qui, on le comprend bien, renforce le clivage de l'opinion publique.
Et alors Pauline, quelles sont les conséquences et les sanctions prévues par ce texte ?
D'abord, je tiens à souligner que 5 rapporteurs de l'ONU se sont montrés alarmants vis-à-vis de ce texte qu'ils jugent comme liberticide et incompatible avec le droit international. En effet, il pourrait porter atteinte à la liberté d'expression. Par ailleurs, de lourdes sanctions sont également prévues. Si demain, Alexandre, tu exprimes ton soutien à la cause palestinienne ou que tu compares l'action d'Israël au régime nazi, comme beaucoup l'ont fait, gare à toi. Tu pourrais te retrouver en prison pendant 5 ans et payer jusqu'à 75 000 euros d'amende. Mais pour le moment, pas d'inquiétude, la loi Yadan doit encore être débattue en séance plénière à partir du 16 avril.
Bah écoute, tant que je suis en liberté, je vais en profiter. Et on suivra ça de près quand même. Merci Pauline pour cette analyse de l'actualité. Et nous passons donc à la chronique du patrimoine avec Nathan. Nathan, tu voulais nous parler de la Maison de la Culture d'Amiens.
Bon, aujourd'hui, on va pas faire une visite de musée avec les mains dans le dos. On va parler d'un endroit que tous les Amiénois connaissent, au moins de vue, la Maison de la Culture. On l'appelle la Macu, elle a un look de paquebot échoué en plein centre-ville et elle vient de souffler ses 60 bougies. Et vous allez voir que sous ses airs de blocs de béton et de verre, elle en a vu passer des vertes et des pas mûres.
60 ans, c'est un bel âge, mais dans quel contexte fut-elle construite ?
L'histoire de la Maison de la Culture démarre en même temps que la création du ministère des Affaires Culturelles en 1959. André Malraux est nommé à ce ministère et rapidement, il exprime devant le Sénat l'un de ses grands projets, démocratiser la vie culturelle et rendre accessibles les œuvres capitales de l'humanité au plus grand nombre possible de Français. L'objectif est de créer un lieu de rencontre ouvert à tous. Et l'idée d'André Malraux, c'était de dire « l'art, c'est pas que pour les Parisiens en smoking, il voulait un choc ». Imaginez ce bâtiment ultra-moderne qui débarque au milieu des reconstructions d'après-guerre. Ce projet se conjugue à la décentralisation. On souhaite élargir la vie artistique en dehors de Paris, c'est ici que naît le projet de création de Maison de la Culture.
Et donc, si je te comprends bien, Nathan, la Maison de la Culture d'Amiens est la première du genre ?
Eh bien, dans un sens, oui. Bien qu'il en existe dès 1874 à Bourges, dans des bâtiments déjà existants, celle d'Amiens est la première Maison de la Culture dans un bâtiment construit spécifiquement pour cette fonction. En l'occurrence, ses constructeurs sont Pierre Sonrel, Jean Dutilleul et Marcel Gaugois.
Et donc, ces trois hommes ont porté ce projet qui a vu le jour en 1966.
Ils ont pu tous les trois constituer l'équipe d'architectes qui a constitué le projet, Pierre Sonrel en tant que spécialiste des questions théâtrales et son associé Jean Dutilleul comme l'architecte amiénois et Marcel Gaugois, mais également plein d'autres. Bref, je doute qu'un tel niveau de précision vous intéresse. Tout cela pour vous dire que la MCA a demandé l'aide de nombreux spécialistes pour sa confection. Elle est inaugurée par André Malraux lui-même le 19 mars 1966. L'occasion est assez exceptionnelle, c'est pourquoi le musée du Louvre a notamment participé en prêtant à Amiens 10 de ses œuvres. C'était presque de la science-fiction pour les gens du quartier. C'est devenu immédiatement le cœur battant de la ville, un endroit où on ne vient pas seulement voir, mais où on vient vivre.
Eh bien, on a bien compris le contexte extraordinaire qui accompagne l'inauguration de ce bâtiment, mais que s'est-il passé ensuite avec l'usage ?
Alors, une fois que les grands discours de l'inauguration ont été rangés au placard, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, pendant 60 ans, ce bâtiment n'a jamais dormi. Si la MCA est devenue un monument du patrimoine, c'est parce qu'elle est restée vivante. On parle d'un lieu où vous pouvez voir un film de science-fiction coréen au cinéma Orson, Wells, le mardi, et vous retrouvez à écouter un quartet de jazz dans le hall le jeudi. C'est ça l'esprit MCA, c'est une ruche. On a vu passer des légendes du théâtre, des danseurs qui faisaient hurler les puristes, et des concerts qui ont fait vibrer les vitres de la place Léon Gontier. La force de ce lieu, c'est d'avoir été une scène nationale qui n'a jamais eu peur de se salir les mains, de tester des trucs bizarres et de transformer un spectateur passif en quelqu'un de curieux, voire de passionné.
Et aujourd'hui, qu'en est-il donc, Nathan ?
Et on arrive à aujourd'hui, 2026. 60 balais pour la vieille dame. Mais si vous voulez aller y faire un tour, vous verrez qu'elle n'a pas pris une ride. Pour cet anniversaire, l'équipe de la MCA a décidé de ne pas rester enfermée dans ses murs. Le mot d'ordre, c'est « on sort ». On a vu des spectacles de cirque sur les places publiques, des installations d'art contemporain au milieu des parcs. L'idée, c'est de fêter ses 60 ans en rappelant que la culture, elle appartient à la rue et surtout à tous. Et ce qui est génial cette année, c'est ce mélange entre le passé et le futur. On a eu des expos qui nous replongent dans les archives de 1966. Mais à côté de ça, on a des jeunes artistes qui utilisent de l'intelligence artificielle ou de la réalité virtuelle pour imaginer à quoi ressemblera la MCA dans 60 ans. C'est une année de fête, de bruit et surtout de partage. Pour conclure, la Maison de la Culture, c'est un peu notre phare à tous. On finit par ne plus la voir tellement elle fait partie du décor. Mais si elle disparaît, Amiens perdrait un peu de son âme. C'est un patrimoine qui ne prend pas la poussière parce qu'il se réinvente tous les soirs quand les lumières de la salle s'éteignent. Alors mon conseil, que vous aimiez le théâtre classique, les films bizarres ou juste boire un café dans un hall majestueux, allez profiter avec eux. C'est votre maison après tout.
Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça donne envie. Pour terminer, Nathan, as-tu quelques conseils culturels pour Amiens ce mois-ci ?
On termine avec quelques rendez-vous à ne pas manquer du côté d'Amiens en ce début de printemps. Les ortillonnages rouvrent leurs portes pour la saison. Une parenthèse verte et calme à deux pas du centre-ville. Pensez à réserver votre balade. Les créneaux partent vite dès le retour du soleil. Dans le même esprit, la raiderie amiénoise fait son retour ce dimanche 19 avril. Pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec ce mot, une raiderie est également le marché aux puces, la brancante ou encore le vide-grenier. Cet événement transforme chaque année les rues et les espaces publics de la ville en scène de déambulation poétique. Spectacle vivant, installation artistique ou encore performance surprise. L'idée est simple, laissez la ville vous emmener quelque part avec un regard neuf et parfois décalé. Venez en famille ou entre amis et gardez l'œil ouvert. Et enfin, le centre-ville reprend ses animations du samedi tout au long du mois. Musique live, ateliers, présence des artisans et commerçants locaux. Une belle façon de se retrouver et de profiter de l'ambiance du quartier. Voilà pour cette chronique, on se retrouve très vite.
Merci Nathan, on marque une petite pause musicale avec Suzanne et on se retrouve juste après pour la chronique de l'artiste engagé.
Comme un garçon que je me bagarre, comme un garçon que j'ai l'air manqué, comme un garçon on dit que j'en ai dans le pantalon, mais moi je suis forte comme une fille, je sais me battre comme une fille, j'ai la tête haute comme les autres filles. Paraît que je marche comme un garçon, que je dirige, que je suis pas sage quand je me force pas à sourire. Mais on m'écoute pas comme une fille, on me reluque comme une fille, on m'explique tout, on m'explique même le mansplaining. Et si je dessine une case à ma manière, avec quelques traits de travers, quelle importance si je l'ai viré. Je me sape comme un garçon, que j'ai de la poigne comme un patron, je pars à la guerre, je défends mon frère, je fais des affaires comme un garçon, mais moi je bosse comme une fille, je suis patronne comme une fille, je défends mes droits, je peux les perdre comme les autres filles. C'est pas mon genre comme un garçon de me laisser faire, mais comme une fille on m'a appris à toujours me taire. Rentre pas trop tard comme une fille, change de trottoir comme une fille, marche plus vite comme les autres, les autres filles. Et si je dessine une case à ma manière, avec quelques traits de travers, quelle importance si je l'ai virile, fille.
viril.
Nous revoici dans Café Noisette, l'émission de l'Association des étudiants en sciences politiques sur Radio Campus Amiens. Et c'était donc Suzanne avec son titre viril. Je vous le disais avant la pause musicale, nous nous retrouvons avec la chronique de l'artiste engagé. Justine, c'est ta chronique. Et qui a donc retenu ton attention ce mois-ci ?
Eh bien, ce mois-ci, il est important de mettre à l'honneur des personnes qui arrivent à exprimer leur engagement et en plus à nous faire rire, des super-héros. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler d'une humoriste engagée. Les blagues, comme on peut le penser, ne minimisent pas les convictions. Au contraire, elles permettent une compréhension globale et moins sèche. Plusieurs humoristes sortent du lot par leur franc-parler, tels que Swann Périssé, ou pour leur manière décomplexée de raconter le monde, comme Mao Drama. Mais aujourd'hui, comme l'a introduit parfaitement Suzanne, je vais vous parler de Tané. Vous connaissez ?
Absolument pas.
Pas du tout.
Alors Justine, t'attise notre curiosité, dis-nous en plus sur elle.
Âgée de 36 ans, elle fait ses premiers pas sur scène dans la Ligue d'improvisation parisienne. Le spectacle n'était pas sa vocation première, avant cela elle était même ingénieure. Mais repérée par plusieurs théâtres et personnalités du monde de l'humour, elle commence le stand-up en 2017 par des selfies.
Attends, je te coupe, c'est quoi le selfie ?
Bon, je vais t'expliquer. Ce sont des scènes ouvertes réservées aux femmes et personnes trans ou non-binaires. C'est ici qu'elle performe le mieux et qu'elle met en place son premier spectacle, nommé L'Autre. Dans ce spectacle, elle nous fait découvrir avec finesse et son regard décalé sur le monde, riche de diversité culturelle, de genre et de sexualité.
Mais alors, en quoi est-elle une bonne porte-parole de ces messages décalés ?
Tané, elle est particulièrement marquée par des minorités. En effet, en plus d'être une femme, elle est lesbienne et racisée. Elle raconte dans son spectacle ce que veut dire aimer les filles, les techniques de drague maladroites, jusqu'à parler de sa coupe afro. De fait, par les codes classiques du stand-up, elle porte haut et fort la parole de femme queer, racisée.
Alors Justine, peux-tu nous donner un exemple concret de ses engagements ?
Alors en effet, outre les mots et les blagues, elle confirme sa place au sein des artistes engagés. En plus de revendiquer son identité, elle agit pour faire bouger les lignes. En 2018, en collaboration avec Mao Drama et Lucie Carbone, elle lance la Comédie Love. Ce projet voit le jour dans une société qui s'ouvre de plus en plus à la diversité sexuelle. C'est un événement de comédie qui met en scène des minorités, qui par l'humour dévoile leur nature et sert d'exemple pour les générations futures, mais même présentes. Il crée, comme elle dit, leur bulle.
Il est important pour les personnes marginalisées de se retrouver derrière une figure. Donc, est-elle vraiment reconnue par la communauté LGBTQIA+ ?
Effectivement, elle l'est. Aujourd'hui, Tané est étiquetée comme une humoriste communautaire. Cela ne la dérange pas, mais ça la questionne. Elle sait qu'elle représente beaucoup pour cette communauté LGBTQIA+. Par exemple, depuis 2023, elle est invitée chaque année au Pride Comedy Show, soit, comme vous l'avez compris, un plateau d'humour qui permet de célébrer l'amour, la diversité et la fierté queer. De plus, elle s'engage hors de la scène, notamment elle participe à des manifestations, fait des vidéos sur Instagram, etc.
Mais alors je suppose que cette position, qui l'a fait d'une certaine manière rentrer dans les cases, lui empêche d'intégrer certains événements.
Malheureusement oui Alexandre. Il y a des festivals auxquels elle n'est pas invitée, alors qu'elle fait de l'audience, sous prétexte que son humour est trop subjectif. Petit aparté, comme si l'humour pouvait être objectif. Elle a l'impression qu'on délégitimise son public vu comme un seul public lesbien et pas neutre. Une question, évidemment, qui ne se pose pas pour les humoristes hétérosexuels.
Alors, selon toi, peut-on dire que, avec tous ces éléments que tu as rappelés, que son humour est un miroir de sa vie privée ?
Il est vrai, et c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai choisi de vous parler de Tané aujourd'hui. Elle est devenue mère en janvier dernier avec sa compagne. Après un long combat de PMA, donc de procréation médicalement assistée, elle a accouché de son premier enfant. Outre cette envie de maternité, elle s'est posé pas mal de questions sur le vocabulaire, les habits, dits féminins qui entourent cet événement dans lequel elle ne se reconnaissait pas tant. À travers cette grossesse, elle remet aussi en cause les discours essentialistes auxquels elle a fait face, du type « t'es une femme, tu sais comment ça marche, tu sais comment faire ». Eh bien, grand scoop. Non, on ne naît pas mère, on le devient, pour reprendre la syntaxe de Simone de Beauvoir. Ainsi, il y a tout un apprentissage à faire.
Alors si l'aspect féminin de sa grossesse pouvait déranger, qu'en est-il de l'aspect médical ?
Dans beaucoup d'interviews, elle rappelle que ce combat de la PMA donc, est avant tout médical, avec de nombreux rendez-vous avec des médecins, des piqûres, Elle a fait face à des victoires, à des défaites, ce qui me permet donc de faire un léger parallèle avec Marine Tondelier, qu'on vous a présenté en début d'émission par Pauline, qui a remis cette question de PMA au cœur de la médiatisation ce mois-ci. En effet, après plusieurs échecs, elle attend un enfant issu de la procréation médicalement assistée. Cette nouvelle a suscité de vives réactions au sein de la sphère politique, médiatique et sociale. Mais une question reste primordiale. Pourquoi, en 2026, on débat encore sur le corps d'une femme et sa manière de donner la vie ?
Eh oui, Justine, c'est une bonne question. Pour conclure, selon toi, l'humour permet-il de transmettre tous les messages ?
Oui, l'humour permet de manière délicate de revendiquer des changements dans la société. Le rire, c'est une arme qui permet aussi de guérir de nos maux. Alors un grand merci à Tané et tous ses comédiens qui nous font réfléchir tout en nous divertissant. Si vous voulez plus la découvrir, vous pouvez la retrouver en podcast avec son émission « On n'est pas fatigué » sur Radio Move.
Merci Justine pour cette analyse et cette présentation. Je ne la connaissais pas, mais tu m'as donné envie d'aller l'écouter. Par ailleurs, vous pouvez aller la retrouver sur scène à la fin du mois de mai au Queer Paris Festival. On passe maintenant à la chronique de fact-checking avec Thomas. Tu voulais, Thomas, nous parler de l'argent et d'une preuve pas comme les autres.
Bonjour Alexandre. Effectivement, pour commencer cette chronique sur un point un peu plus fun, petit quiz. Quiz fiscalité, précisément. Savez-vous comment Samir Nasri, lui qui clamait sur tous les toits qu'il était dubaïote et qu'il n'avait pas à payer d'impôts en France, s'est fait choper par l'administration fiscale française ?
Bois de Boulogne ?
Non.
La carte Snap ?
Absolument pas. C'est bien plus simple. L'ex-footballeur, il a commandé 260 fois Deliveroo vers la même adresse française. Donc petit conseil à tous nos auditeurs qui voudraient frauder le fisc, ne commandez pas sur Deliveroo, allez plutôt en Biocop, c'est vachement mieux pour la planète.
C'est effectivement très drôle. Pour ma part, j'aurais une autre leçon à tirer. Cuisinez vous-même. Mais sinon, Thomas, tu voulais nous parler d'une drogue de synthèse trouvée dans le sac de l'eurodéputé Rima Hassan.
Bon, passons aux choses plus sérieuses. Le 2 avril dernier, une information fait immédiatement le tour des chaînes d'infos et des journaux. De la drogue de synthèse aurait été retrouvée dans le sac de l'eurodéputé Rima Hassan lors de sa garde à vue. Très vite, plusieurs médias parlent de 3MMC... Certains évoquent même du cannabis, bref, c'est la foire à la saucisse. Pourtant, le récit semble clair. Une élue qui est, il faut le dire, très controversée, aurait été contrôlée avec une drogue dure sur elle. Sauf que ce récit, il est faux. Quelques jours plus tard, les analyses du laboratoire concluent que la substance retrouvée n'est pas un stupéfiant, mais du CBD, donc un produit entièrement légal. L'enquête, logiquement, est classée sans suite. Pourtant, entre-temps, l'accusation a été présentée comme vraie par une grande partie des médias, souvent sans conditionnel, sans vérification indépendante et globalement sans recueillir la version ni de l'intéressé ni de son avocat. L'information initiale reposait en réalité sur des sources proches de l'enquête, entre autres, ces sources qui ne respectent pas le secret de l'enquête. En fait, ici, ce qui est frappant dans cette affaire, c'est pas seulement l'erreur, c'est la vitesse à laquelle elle devient une certitude qu'on ne critique pas. Dès le départ, Rima Hassan expliquait qu'il s'agissait du CBD acheté légalement. Mais ça, évidemment, c'est moins spectaculaire qu'une drogue de synthèse associée à des soirées chemsex.
Je crois comprendre une référence à l'affaire Palmade. Mais alors, que nous apprend l'affaire Rima Hassan qui nous intéresse ?
Cette affaire rappelle finalement une règle assez simple. Aujourd'hui, une information judiciaire en cours peut devenir une vérité médiatique en quelques minutes. Une étude du MIT de 2018 estime qu'une fake news a une vitesse de circulation 6 fois plus rapide que la vérité. Cette étude dit en substance que nos actes ont des conséquences et pour reprendre un très grand sage, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Il est temps que les médias prennent les leurs, selon moi.
En parlant de pouvoir, Thomas, en mars, c'était les élections municipales et les maires nouvellement élus ont acquis pas mal de pouvoir, justement. As-tu quelques retours sur des premières actions ou réactions ?
Quelle fluidité, Alexandre ! Et oui, tu as bien raison, qui dit élection municipale dit promesse politique. Et qui dit promesse politique dit généralement promesse intenable. Les élections du mois dernier sont l'occasion de scruter les premières actions de chaque maire, les plus importantes, les plus symboliques. On a donc décidé de se pencher sur 2 arrêtés pris respectivement par Christophe Barthès, maire RN des Carcassonnais, et Bali Bakayoko, maire LFI de Saint-Denis-Pierrefitte, histoire de faire du legal checking. Et il faut dire que, leurs premières actions interrogent sur le plan moral pour le premier et sur le plan légal pour l'autre. On commence par Christophe Barthès. Alors celui-là, quel spécimen. Vous avez dû le voir, c'est le maire qui a retiré le drapeau européen du fronton de sa mairie, mis la pression sur des lycéens afin de les empêcher de manifester et supprimer les subventions de la Ligue des droits de l'homme. Rien de surprenant pour un maire RN, me diriez-vous. Mais il reste une décision dont nous n'avons pas parlé, sa toute première, c'est évidemment l'arrêté interdisant la mendicité.
Alors si mes souvenirs sont bons, la commune d'Amiens avait pris un arrêté similaire, avait-il été considéré légal ?
En une semaine, oui. Puis il a été retoqué par le juge administratif d'Amiens. En effet, même si la mendicité n'a rien d'illégal depuis 1994, le juge administratif admet parfois que dans certains cas, la mendicité cause des troubles à l'ordre public et donc qu'elle peut être interdite. Malgré tout, il y a des critères pour qu'on considère la mendicité comme trouble à l'ordre public. En gros, ce genre d'arrêté peut viser la mendicité en groupe ou agressive, la mendicité dans des lieux très fréquentés par les touristes lorsqu'elle gêne vraiment la circulation, ainsi que certaines périodes particulières liées à des événements ou à une forte affluence. C'est lorsque ces différents critères sont combinés de manière ciblée que le juge confirme la légalité de ce type de mesure.
Et alors, que se passe-t-il si on rapporte cette analyse à Carcassonne ?
Dans le cas de l'arrêté du maire de Carcassonne, les trois premiers articles sont conformes, pas de problème, ils ciblent des situations précises comme la mendicité près des feux de circulation. En revanche, les deux derniers articles posent problème. Les zones visitées sont définies de manière beaucoup trop floue. Déjà par exemple, la gare et ses alentours, d'accord Christophe, et ça veut dire quoi ? Quelle rue ? Quelle avenue ? C'est pas très précis tout ça. En plus, les périodes d'interdiction, elles sont tellement larges qu'elles rendent l'interdiction presque permanente. Du lundi au samedi, en plus des jours de forte affluence, des jours de marché et des jours fériés, de 11h à 23h, du 30 mars 2026 au 30 juin 2026. C'est simple en fait, on dirait les horaires d'ouverture de mon fitness park. L'arrêt apparaît donc disproportionné, évidemment immoral, mais pas forcément illégal.
Et qu'en est-il de l'arrêt de Bali Bagayoko que tu nous as introduit précédemment ?
À l'opposé, on retrouve un arrêté qu'on peut qualifier de moralement bon, mais malheureusement illégal. Le maire Bali Bakayoko a pris un arrêté anti-expulsion, c'est-à-dire l'interdiction d'expulser des personnes de leur logement sans solution de relogement digne. Même s'il s'appuie sur la protection du droit au logement, un droit fondamental par ailleurs, cet arrêté pose un problème de séparation des pouvoirs. Une mairie doit exécuter les décisions de justice, sauf circonstances exceptionnelles appréciées au cas par cas, elle ne peut pas refuser de manière générale les expulsions. Bref, chers auditeurs, je vous laisse avec cette leçon, ni l'éthique ni la morale ne sont des principes directeurs du droit.
Merci Thomas pour cette analyse. On marque une nouvelle pause et on se retrouve juste après pour l'interview de Manon Robin, membre d'Amnesty France.
Oh,
Nous revoici dans Café Noisette, après cette pause avec Angèle, What You Want. Et comme annoncé, nous vous proposons un échange avec Manon Robin, membre de la commission abolition de la peine de mort et de la torture dans le monde, auprès d'Amnesty France. Bonjour Manon Robin.
Bonjour.
Nous vous recevons ce soir avant la conférence menée avec le groupe jeune d'Amnesty Amiens, conférence qui porte sur la peine de mort dans le monde. Et je voulais vous interroger pour cette petite interview pour Café Noisette, l'émission de l'Association des étudiants en sciences politiques d'Amiens. Tout d'abord, j'aimerais savoir est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Manon Robin. Je suis membre de la commission abolition de la peine de mort et de la torture chez Amnesty France depuis près de 2 ans. Et à côté, parce qu'il s'agit d'un engagement bénévole, je suis aussi étudiante en sciences politiques moi-même.
Et alors, quel est le rôle d'Amnesty pour lutter contre la peine de mort ?
Alors, Amnesty International porte le combat de l'abolition de la peine de mort depuis près de 50 ans maintenant. C'est un combat qui a beaucoup évolué. Initialement, il était restreint aux prisonniers politiques et aux prisonniers politiques qui étaient pacifiques, qui ne faisaient pas l'usage de la force. Au fur et à mesure, les champs se sont agrandis, assez vite en réalité, à la fin des années 80. On s'est intéressé aux opposants politiques violent aussi, et aussi à toute personne en fait qui était condamnée à mort, opposant politique ou pas.
Alors à titre personnel, tu fais partie de la commission abolition de la peine de mort et de la torture dans le monde au sein de Amnesty France, je le disais. Est-ce que cette commission mène des campagnes mondiales ?
Oui, alors en fait, la commission abolition de la peine de mort, elle agit liées aux consignes qui sont données par Amnesty International au global et relayées par Amnesty France par la suite. Donc oui, il y a plein de campagnes qui sont menées. Il y a des campagnes particulièrement au moment du 10 octobre, au moment du 10 décembre, qui sont des dates clés pour les questions de droits humains. Mais tout au long de l'année, en fait, on s'engage sur des actions urgentes, c'est-à-dire sur des cas individuels pour lesquels il y a une attention particulière qui est donnée parce qu'il y a des risques d'exécution qui sont imminents.
Pourquoi le 10 octobre et le 10 décembre ?
Le 10 décembre, c'est la journée internationale des droits de l'homme. Et le 10 octobre, c'est la journée pour l'abolition de la peine de mort. C'est une journée qui a été établie en 2003. Et depuis, chaque année, on l'a, je dirais pas célèbre, mais en tout cas, on prend le temps sur cette journée de s'attarder tout particulièrement sur cette question de la peine de mort.
L'une des principales campagnes de ta commission, je me suis renseigné un petit peu, s'intitule « Changer leur histoire ». Est-ce que tu peux nous en dire plus sur celle-ci ?
Alors, Changer leur histoire, c'est une campagne qui est menée pas seulement sur la question de la peine de mort. C'est une campagne au global d'Amnesty International. Donc, celle-ci, c'est autour du 10 décembre, sur la journée des droits de l'homme, avec un grand H. Et donc, en fait, c'est 10 cas que sélectionne Amnesty International, pour lesquels il y a des pétitions qui sont lancées. Et en fait, c'est 10 cas de violation de droits de l'homme. Parfois, la peine de mort fait partie des sujets qui sont amenés sur cette journée. L'année dernière, ça n'a pas été le cas. Mais chaque année, c'est l'occasion en fait, de mettre en lumière des cas individuels et d'essayer de faire bouger les choses.
Voilà, c'était donc notre échange avec Manon Robin, échange que nous avions eu, je le disais tout à l'heure, avant une conférence organisée par l'AESP et par le groupe jeune d'Amnesty Amiens. Nous passons maintenant à la chronique des Good News International avec Lucie. Quelles sont donc ces bonnes nouvelles qui ont retenu ton attention ce mois-ci ?
Bon, on va pas se mentir, ce mois-ci, ça a été très compliqué. Chaque mois, avec Mona, on cherche des Good News pour vous, nos chers auditeurs, mais ce mois-ci, on a eu vraiment du mal à vous trouver des bonnes nouvelles.
Ah, bah alors, est-ce que vous avez réussi ?
Bon, on s'est démené et on a quand même réussi à vous trouver 3 sujets pour ce mois-ci. Donc on va commencer par vous parler d'une actu positive, c'est une avancée pour lutter contre la précarité et ça fait du bien. Direction le Royaume-Uni, où des initiatives hyper concrètes voient le jour pour aider les personnes sans-abri. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ces solutions, elles ne sont pas toutes les mêmes. Comme on a aussi pu le voir dans la chronique de fact-checking juste avant, chacun sa manière de lutter contre la précarité. Bon, concrètement ici, par rapport à Carcassonne, on est sur une avancée morale et humaine.
J'espère bien, oui.
Par exemple, sur l'île de Guernesey, ils ont installé des petits abris individuels. Un peu comme des mini-cabanes, vous voyez. C'est simple, mais efficace. C'est un espace fermé, sécurisé, où les personnes peuvent passer la nuit à l'abri du froid et du vent. Ces logements, ils sont en autosuffisance. C'est-à-dire qu'ils sont équipés de panneaux solaires. On est vraiment sur une solution d'urgence, mais qui est rapide à mettre en place. À Manchester, on a eu une autre idée là-bas. On a développé des structures plus complètes. Il y a l'électricité, il y a des sanitaires, et le but, c'est que ce soit un accompagnement. L'idée, c'est pas de dépanner pour une nuit, mais d'aider les personnes à se reconstruire petit à petit.
Lucie, peux-tu nous expliquer plus en détail ce que cela implique ?
Alors, si tu veux, on a deux approches. D'un côté, on a des abris rapides et accessibles immédiatement pour des situations d'urgence. Et d'un autre côté, on a des dispositifs plus durables et plus encadrés. Je trouve ça très intéressant de voir qu'il n'y a pas qu'une seule solution, mais qu'il y a plein de façons d'agir selon les besoins. Bon, évidemment, ça ne règle pas tout le problème de la précarité. Ça reste un énorme problème, surtout au Royaume-Uni, après le Brexit. Mais c'est intéressant de voir que des idées simples, des fois, ça peut faire la différence.
C'est vrai, et comme tu le disais, c'est une très bonne nouvelle. Pour ton second sujet, tu nous fais prendre un peu de hauteur et tu nous amènes dans l'espace.
En effet, passons à une information qui va réjouir les amateurs d'espace. Le retour de la mission Artemis 2 sur Terre. Après son décollage début avril depuis le Kennedy Space Center en Floride, le vaisseau Orion a parcouru plus de 1 million de kilomètres pour amerrir dans l'océan Pacifique 9 jours plus tard. Si cette mission a fait autant parler, c'est parce qu'elle s'inscrit dans le Artemis programme, dont l'objectif est de retourner sur la Lune. En 2022, une première mission avait testé une capsule Orion avec succès. Cette fois-ci, Artemis 2 embarquait avec 4 astronautes qui ont réalisé un tour complet de la Lune à bord de la fusée Space Launch System, une version modernisée des fusées utilisées lors du célèbre programme Apollo.
Mais alors, qu'ont fait les astronautes là-haut, Lucie ?
Alors, ils ont notamment pu observer la face cachée de la Lune, invisible depuis la Terre, et ils ont pu la découvrir pour la première fois à l'œil nu, qui donne lieu à de nouvelles photos exclusives que vous avez pu voir en ligne. L'équipage était composé de deux anciens de l'US Navy, du Canadien Jeremy Hansen pour sa première mission, ainsi que de Christina Koch.
Ah oui, ça me dit quelque chose, on en avait parlé dans l'émission de février.
Et oui, tu te rappelles bien, c'était la détentrice du record du plus long vol spatial pour une femme, et elle était participante à la première sortie spatiale 100% féminine de 2019. Cette mission, elle confirme la volonté des États-Unis de retourner durablement sur la Lune, qui n'a pas vu la présence humaine depuis Apollo 17 en 1972.
Effectivement, ça date.
L'objectif est même d'y installer une base lunaire pour exploiter des ressources et préparer des missions vers Mars. Enfin, ce projet s'inscrit dans une nouvelle dynamique avec l'arrivée d'acteurs privés dans ce qu'on appelle la New Space. C'est une bonne nouvelle parce que cette mission elle relance concrètement l'exploration humaine de la Lune, elle ouvre la voie à des avancées scientifiques majeures et montre que nos capacités d'exploration elles continuent de progresser au-delà de la Terre.
Et alors Lucie, revenons maintenant sur la Terre, justement, avec une actualité sportive.
Le mot de la fin de cette émission sera pour parler de football. À quelques mois de la Coupe du Monde masculine, on va parler des femmes dans le football. À l'Union Berlin, une petite révolution est en marche avec l'arrivée de Marie-Louise Etta. À seulement 34 ans, elle devient l'une des premières femmes à intégrer le staff technique d'une équipe masculine en Bundesliga, mais aussi le Big Five, c'est-à-dire les 5 grands championnats d'Europe. C'est une ancienne joueuse, elle a été formée au haut niveau et elle s'impose aujourd'hui comme une coach crédible dans un univers encore très masculin. Et surtout, sa présence sur le banc, c'est pas seulement symbolique. C'est la preuve que les compétences priment, peu importe le genre. C'est aussi un signal fort pour la féminisation du football. Les femmes ne sont plus seulement sur le terrain, elles prennent des décisions, dirigent, analysent le jeu. Bref, une avancée inspirante qui montre que le football évolue doucement, mais il évolue.
Merci Lucie pour ce regard sur l'actualité avec le sourire. Et c'est la fin de Café Noisette pour ce mois-ci. Merci de nous avoir écoutés. Bonne révision aux étudiants qui nous ont écoutés. On se retrouve mercredi 20 mai prochain, même heure, pour le prochain numéro de Café Noisette sur Radio Campus Amiens 87.7 FM. Bonne soirée à tous.
Bonne soirée, merci.
Au revoir.
Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire.
Because you can't be do what we want to do.
Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finances. J'espère que le gâteau était bon.
Voilà, nous avons un peu le sentiment d'être venus pour rien. Mais c'est pas grave, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer.